Le journal Loïc Barrière. Rencontre ce vendredi entre la première ministre tunisienne Najla Bouden et son homologue français Jean Castex. La France réaffirme son soutien au processus de réformes économiques en Tunisie. Une conférence internationale sur la Libye à Paris en présence de plusieurs chefs d'État. Il s'agit d'encourager le processus électoral 10 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi. Le Conseil de sécurité s'est réuni pour examiner la crise des migrants entre la Biélorussie et l'Union européenne. L'analyse de Pierre Henry, président de France Fraternité. EDF annonce que l'électricité ne sera plus coupée dans les foyers qui n'ont pas payé leurs factures, y compris après la trêve hivernale. Enfin, nous évoquerons l'exposition Lumière du Liban qui se tient actuellement à l'Institut du Monde Arabe avec le collectionneur Claude Le Mans. La chef du gouvernement, Najla Bouden Romdan, a été reçue ce vendredi par le Premier ministre français Jean Castex. Au centre de ces discussions, le renforcement des relations entre Paris et Tunis. Jean Castex a affirmé le soutien de la France à la Tunisie dans ses efforts pour mener les réformes structurelles nécessaires pour relancer son économie. Il a été question aussi de l'immigration et du Covid-19. Paris accueille ce vendredi une réunion internationale sur la Libye. Parmi les participants, la vice-présidente américaine Kamala Harris, le président égyptien, la première ministre tunisienne ou encore le ministre algérien des Affaires étrangères. L'objectif du président Macron est d'apporter un soutien de la communauté internationale à l'élection présidentielle du 24 décembre en Libye, un scrutin qui sera suivi un mois plus tard par les législatives. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi soir au sujet de la crise des migrants à la frontière de la Pologne. Les pays occidentaux accusent la Biélorussie de vouloir déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne. Plusieurs milliers de migrants vivant dans des conditions dramatiques ont été acheminés par le régime de Minsk par avion, parmi eux des Syriens, des Irakiens et des Afghans. On écoute Pierre Henry, président de l'association France Fraternité.
Ce qui se passe à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne est une abomination. Il y a des États voyous qui font la traite des êtres humains. Aujourd'hui, c'est la Biélorussie, d'ailleurs avec la complicité de la Turquie. Et je pense que la responsabilité de l'Union européenne, c'est évidemment de mettre un terme à cela. Alors comment ? D'abord en soustrayant les migrants de cette prise d'otage massive et en faisant pression sur la Pologne, en les accueillant sur le territoire européen, en examinant leurs dossiers et en les répartissant sur le territoire européen. Je rappelle qu'il y a au maximum 3000 personnes qui sont aujourd'hui des femmes, des hommes, des enfants qui sont aujourd'hui pris en otage à cette frontière. Et puis, par ailleurs, il faut sanctionner très durement Biélorussie. Il faut avoir une diplomatie de la route migratoire qui coupe toutes les sources d'approvisionnement, de commerce avec la Biélorussie. Voilà, je crois qu'il faut véritablement faire entendre raison aux États qui se comportent de cette manière crapuleuse. Mais l'urgence, c'est d'abord parce que nous sommes l'Union européenne, c'est-à-dire une construction politique, une construction économique, mais aussi une communauté de valeurs fondée sur le respect des personne, le respect de la vie humaine. Nous devons d'abord protéger les réfugiés et les sortir de ce bras de fer. La réponse peut pas être simplement de déployer 15 000 policiers et militaires polonais à la frontière avec la Biélorussie. Les États de Visegrad au sein de l'Union européenne doivent aussi accepter de faire leur part du travail. Et la part du travail, c'est de mettre à l'abri ces réfugiés. Mettre à l'abri, ça ne veut pas dire forcément les accepter durablement sur le territoire européen, mais en tout cas les empêcher de mourir de froid dans cet endroit particulièrement exposé.
Est-ce que ce bras de fer entre la Biélorussie et l'Union européenne peut renforcer le populisme dans l'Union européenne et notamment en France?
Écoutez, c'est de la responsabilité des hommes politiques d'arrêter d'instrumentaliser cette question de l'immigration et de la mettre à toutes les sauces avec des propositions dont ils savent pertinemment qu'elles ne pourront rentrer en vigueur. Je regarde avec effarement les propositions d'un certain nombre de candidats à la présidentielle. Un jour, on supprime les régularisations. L'autre jour, on diminue de façon drastique le nombre d'étudiants étrangers qui viennent en France. Le troisième jour, on supprime le regroupement familial qui, stricto sensu, intéresse dans notre pays 12 000 personnes. Et tout le monde sait très bien que la plupart de ces propositions sont anticonstitutionnelles, sont totalement inapplicables, sont inefficaces. C'est comme ceux qui aujourd'hui prônent la construction de murs aux frontières de l'Europe. Mais vous savez, les murs, ça se contourne, et ça a une conséquence, ça enchérit le coût de la route migratoire, et ça fait le bonheur des passeurs, au risque de la vie des migrants. Donc, je pense que la raison devrait commenter, évidemment, la réflexion des hommes politiques. Je crois qu'en tout état de cause, il ne faut pas aller dans le sens de la flatterie des plus bas instincts qui peuvent s'exprimer aujourd'hui, parfois de manière très inquiétante, dans les sondages. Donc, populisme ou pas, je crois qu'il est de la responsabilité des politiques de réagir en fonction du bien commun.
Pierre Henry, président de l'association France Fraternité. En Afghanistan, une explosion dans une mosquée. Cela s'est passé dans la province de Nangarhar. L'attentat a eu lieu à l'heure de la prière du vendredi. Bilan, au moins 3 morts et 15 blessés. Au Soudan, le général El Bourhan a nommé un nouveau conseil de souveraineté. Sont exclus de ce conseil les représentants du bloc réclamant un transfert du pouvoir aux civils. Le Soudan, où plusieurs ministres, manifestants et militants ont été arrêtés ces derniers jours. Une nouvelle manifestation géante est prévue ce samedi. En France, EDF va cesser de couper l'électricité des particuliers en cas d'impayés. Cette mesure sera valable toute l'année et non plus seulement durant la trêve hivernale. En remplacement à partir du 1er avril 2022, EDF imposera à ses clients une limitation de la puissance électrique, ce qui permettra d'avoir accès à des usages essentiels tels que l'éclairage, le fonctionnement d'équipements de cuisine comme le réfrigérateur ou encore la recharge d'appareils électroniques. Une cérémonie de recueillement devant le Bataclan à Paris ce vendredi matin. La grande mosquée de Paris, ses imams et des représentants ont rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Le recteur de la grande mosquée de Paris et les imams ont également rendu hommage au lieutenant de police Ahmed Merabet. Il avait été assassiné lors des attentats du 7 janvier 2015. La stèle dressée à sa mémoire à Paris a été récemment dégradée par des tags racistes. Malgré une bonne couverture vaccinale, la pandémie de Covid-19 se répand à nouveau en Europe. Certains gouvernements s'apprêtent à réimposer des restrictions En Autriche, le gouvernement envisage par exemple d'obliger les non-vaccinés à se confiner. Aux Pays-Bas, les bars et les restaurants devraient fermer à partir de 19h. Enfin, l'exposition « Lumière du Liban » se poursuit à l'Institut du Monde Arabe. Une exposition qui rend hommage à la vitalité et à la résilience de la scène artistique libanaise. À l'origine de cette exposition, le collectionneur Claude Le Mans qui a légué de nombreuses œuvres à Lima. Claude Le Mans.
Ce titre-là, je l'avais en tête depuis plusieurs années. Quand nous avions fait notre donation en 2018, j'avais déjà annoncé mon souhait que nous exposions, nous fassions un certain nombre d'expositions, entre autres Lumière du Liban, Algérie mon amour, etc. Et pour moi, évidemment, tous les artistes qui ont connu le Liban disent que la lumière du Liban est spéciale, elle est exceptionnelle. Mais moi, ce n'est pas cette lumière physique que j'avais en tête, mais plutôt que les lumières du Liban, ce sont les artistes, les créateurs, les inventeurs, les personnalité qui tout au long de son histoire, qui est chaotique, qui parfois elle est belle, comme à l'époque de l'âge d'or de Beyrouth, des années 50, à peu près 65-70, ou bien les périodes les plus difficiles, il est apparu au Liban une scène artistique et poétique et des gens de pensée, des gens aussi, les Libanais sont connus pour leur esprit d'aventure, en ce sens que comme ils ne peuvent pas compter sur l'État, ils ont toujours compté sur eux-mêmes, ils ont pris des initiatives, ils ont pris des risques, et parfois ça a donné de très beaux résultats. Donc pour moi, Lumière du Liban au pluriel, ce sont principalement les artistes du Liban.
Alors, des artistes très connus figurent au catalogue de cette exposition, je pense à Etel Adnan, mais vous avez souhaité aussi faire connaître de jeunes artistes libanais.
Disons que l'Institut du Monde Arabe avait un musée, ils ont fait des achats dans les années 80, puis de très belles choses, puis ils ont arrêté. Et donc, lorsque moi j'ai lancé le projet après les explosions de Beyrouth, de faire trois initiatives. La première initiative, c'est l'exposition Lumière du Liban. La deuxième initiative, c'est de faire appel à des artistes du monde arabe pour qu'ils confient à notre fonds une œuvre intéressante. Et troisième initiative, un appel que j'ai lancé avec Jacques Lang et le musée de l'Institut aux jeunes artistes du Liban pour qu'ils nous proposent un projet. Nous avons reçu 130 candidatures qui décrivent ce qu'ils souhaitent faire avec des photos, et sur les 130, nous en avons choisi 11 finalement. Et parce que avant notre donation en 2018, l'Institut du Monde Arabe avait 47 œuvres d'artistes du Liban. 47 œuvres seulement. Avec notre donation, la collection du musée est passée à 509 œuvres du Liban. Et avec cette exposition Lumière du Liban, j'ai pris des contacts avec les artistes, avec les galeries, avec les héritiers de certains artistes, et j'étais tellement heureux que ça ait suscité un mouvement vraiment de un mouvement de soutien à cette scène artistique et culturelle libanaise qui était par terre depuis plusieurs années, mais surtout après l'explosion. Certains artistes n'avaient même plus d'argent pour acheter le matériel, les couleurs, les toiles, le papier, puisque ceux qui avaient de l'argent en devise étaient bloqués dans les banques. Et donc, l'initiative que j'ai prise a a soulevé vraiment beaucoup d'enthousiasme et j'étais très très heureux. Notre fonds, parce que l'Institut du monde arabe n'a pas d'argent pour acheter ni pour faire des expositions temporaires, donc c'est notre fonds. Nous avons acheté des œuvres et ou bien il y a des artistes qui ont offert une œuvre, parce que l'avantage que je leur proposais, c'était que toutes ces œuvres-là allait entrer dans les collections du musée. Le musée de Lima est un musée de France, donc les œuvres deviennent inaliénables, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs. Et alors, donc, je vous disais que à l'Institut, il y avait 47 œuvres du Liban. Ensuite, il y a eu, avec notre donation, 509 œuvres de deux générations. Et avec notre appel aux jeunes, avec les 11, puis un 12e artiste, c'est réservé aux jeunes qui ont entre 21 et 35 ans. Ce qui fait que nous avons dans cette exposition des artistes de trois générations. Les œuvres vont de 1950 à 2021.
Le collectionneur Claude Lemand, l'exposition Lumière du Liban se poursuit à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 2 janvier. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Pierre Luce, référent départemental de La République en marche dans les Yvelines. Cette édition est terminée. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.